Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver en cette très belle journée, mardi ensoleillé, celui du 28 avril 2026, jour des 80 ans d'une extraordinaire chanteuse, Ginette Reno.
Plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux voir comment c'est là-haut, car de mon bras me tient ma main, un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin, laisse mon bras me tient ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai.
Bon anniversaire, Ginette Renaud. Il y en a qui l'appellent par son prénom seulement, mais moi, je suis incapable. Elle m'impressionne trop. Quelle voix splendide, vous l'avez reconnue dans cette grande chanson signée Jean-Pierre Ferland, elle qui nous avait donné des frissons. Bien, j'étais pas là, mais j'ai vu quand même des images et j'ai entendu ce moment magique en 1975 alors qu'elle l'a chanté, cette chanson sur la montagne. Et puis, à l'occasion de son anniversaire, on va en profiter pour vous offrir ses chansons tout au long de l'émission. Au menu aujourd'hui, d'abord, bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Vous avez apprécié aussi hein, cette voix de Ginette Renaud? On ne peut pas rester insensible.
Non, effectivement.
C'est tellement grandiose et riche. Alors donc, au menu, il est devant moi, il est de retour de voyage.
Bonjour Hélène, bonjour.
Bonjour, un beau petit hall.
Merci.
Oui, vous en avez bien profité.
Un hall du Portugal, oui, absolument.
Oui, vous allez d'ailleurs nous raconter, faire une chronique sur votre voyage, mais pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, ce sera le sujet.
Aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur le 28 avril.
Oui.
Bien, Ginette Renaud, c'est un incontournable.
on le rementionnera tantôt.
Oui, oui.
Alors oui, il y aura les anniversaires de naissance et de décès, mais aussi les événements dans le monde. Dans les 28 avril, les nombreux 28 avril dans l'histoire, prénom du jour, thème de la journée mondiale, le menu habituel d'un éphéméride.
Parfait. Une éphéméride. Merci beaucoup, André. On aura aussi des nouvelles, en fait, un reportage de Dominique Tremblay sur le défi sportif Altergo qui a pris son envol le 23 avril. J'y étais hier pour la cérémonie officielle d'ouverture. Beaucoup de frissons, beaucoup de belles rencontres. La chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qui va nous parler de deux livres, « Comment sauver des chevaux sauvages » et « Petite douceur ». Le documentaire « Emela » qui prend l'affiche du rendez-vous Québec Cinéma. Ce soir, il y aura une représentation. Emela, peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est elle, la propriétaire du Biblos, le petit café à Montréal sur Laurier, depuis presque 40 ans. Une femme admirable qui viendra en studio. Alors, j'ai bien hâte de la rencontrer avec le réalisateur du film Pirouse Nemati. Et la chronique économie avec Michel Poitvin qui nous parle des retombées du hockey. Alors, belle émission en perspective. Et j'en profite aussi pour remercier Denis Martin Chabot qui était là hier et qui m'a fait une fleur. Parce que oui, c'était mon anniversaire.
Ben, bonne fête.
Ouais, j'ai le même signe astrologique que Ginette Renaud.
Ah, hein? Quand même.
Alors, c'était le 25 avril et Denis Martin a eu la bonne idée de faire jouer la chanson que Rock Voisine a écrite pour moi. Hélène, version symphonique avec Cœur de pirate que je découvrais avec beaucoup d'émotions. Alors, il faudra l'écouter. Elle est très belle, cette version. Et on apprend aujourd'hui que Rock Voisine sera intronisée au Panthéon des auteurs, compositeurs, interprètes canadiens. Là, je dis ça de mémoire, mais on en parle dans les journaux d'aujourd'hui. À la une de la presse aujourd'hui, dépendance aux substances au front face au tsunami. Le nombre de patients aux prises avec des problèmes de consommation ne cesse de croître au CHUM, qui se trouve à l'épicentre de la crise de l'itinérance et ces cas sont de plus en plus complexes à traiter. C'est un dossier important signé Gabriel Duchesne et Martin Tremblay. La presse a passé deux jours avec des soignants qui tentent de tenir tête à un ennemi impitoyable. Au cœur de la crise de l'itinérance, le CHUM reçoit un nombre grandissant de patients qui sont aux prises avec des problèmes de consommation et dont l'état de santé se complexifie. C'est une vague, c'est maintenant un tsunami. C'était une vague et c'est maintenant un tsunami. Également à la une, M. Carney, Ottawa crée un fonds souverain et y injecte 25 milliards. « Je suis un nationaliste », ce sont les mots de Mark Carney. La presse s'est entretenue avec lui. « Je suis un nationaliste », le premier ministre Mark Carney avoue qu'il carbure à l'élan patriotique qui balaie le Canada en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. M. Carney estime d'ailleurs que miser sur un retour à la normale dans le dossier des relations canadiennes, américaine après la fin du règne tumultueux du président Donald Trump serait une erreur stratégique coûteuse pour l'avenir économique. Ce constat, si brutal soit-il, explique son obsession depuis qu'il a obtenu un mandat des électeurs il y a exactement un an, aujourd'hui même, de renforcer les échanges commerciaux avec l'Union européenne, la Chine, l'Inde et bientôt le Mercosur, et sa volonté d'accélérer l'approbation de grands projets d'intérêt national, d'abolir les obstacles au commerce intérieur et de favoriser l'achat de produits canadiens. Le but, réduire la dépendance du Canada face au marché américain. Une rencontre aussi avec Denis Arcand qui a créé une pièce de théâtre à partir d'un roman qu'il aime beaucoup, 30 Arpents. Selon lui, c'est l'un des plus grands romans québécois. Une œuvre méconnue de Ringuet, écrite en 1938. Et au cœur de cette fresque, il y a Eucariste Moisan, dont on suit le parcours de l'enfance à la vieillesse, qui fait l'objet d'une pièce de théâtre qui met en vedette Edgar Bory. La pièce sera présentée à la Tête de cochon à Saint-Anislas le 2 mai. Belle rencontre à lire, donc c'est Mario Girard qui a eu la chance de s'entretenir avec Denis Arcand. Aussi à la une du Devoir, un tableau qui va certainement vous intéresser, Mathieu, c'est Moritz Cornelis Escher, qui est souvent nommé le Maté magicien, un graveur virtuose qui est devenu au fil de sa carrière spécialiste des illusions, des dessins trompe-l'œil qui piègent nos perceptions. Jusqu'au 30 août, une exposition de plus de 150 de ses œuvres à Montréal permet de découvrir ou redécouvrir son travail, toujours fascinant. C'est à voir. Oh, je vous donne l'adresse, 312 rue Sainte-Catherine-Ouest jusqu'au 30 août. Et c'est Catherine Lalonde qui raconte la vie et l'œuvre de cet artiste qui était assez spécial. En tout cas, si on en juge par ses gravures, une qui s'appelle « Hand with Reflecting Sphere » et puis l'autre, tout simplement « Eye », et c'est justement un eye, un œil qui nous regarde, une œuvre de 1946. Et puis, à la une du Journal de Montréal, finalement, le loup de Montréal refait surface malgré 32 millions de dollars d'impôts impayés. Grosse vie à Dubaï. C'est en pages 6 et 7. Un jeune financier montréalais qui a fui le Québec il y a une dizaine d'années alors qu'il était endetté d'au moins 32 millions auprès du fisc ferait maintenant la belle vie aux Émirats arabes unis en Lettonie et au Liban sous une nouvelle identité. John Babikian, surnommé le loup de Montréal, continue de s'offrir du luxe, montre une enquête journalistique de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project publiée au début avril.
Sur terre, quand le feu se noie dans la mer, quand la peur se glisse dans l'air, les enfants récitent leurs prières, quand la pluie frappe au carreau, le brouillard est en son manteau, quand le vent plie les roseaux, et qu'au loin s'enfuient les oiseaux, tu es là. Je suis femme, j'ai besoin de toi. un jour tu t'en allais, si un jour tu disparaissais, sans un cri je tomberais, d'un seul coup tout s'écroulerait.
Tu es là, une chanson de Ginette Renaud. Nous sommes tous là.
Oui, et dans mon énervement, là, j'étais pas là. Il a fallu bien prononcer l'Organized Crime and Corruption Reporting Project. Je ne l'ai pas tout à fait. Dites-le,
mais quand
André.
Même. Mais non,
je perds mon anglais.
Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Thank you very much, Andrew.
You're welcome.
Alors, allez-y avec l'éphéméride du 28 avril. Vous allez débuter avec le thème de la Journée mondiale et les prénoms du jour.
Bien sûr. Alors, aujourd'hui, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, lancée en 2003 à l'initiative de l'Organisation internationale du travail, un organisme de l'ONU. Alors, c'est une journée qui vise de manière générale à promouvoir la prévention des accidents et des maladies liées au travail, mais le thème de 2026 met l'accent sur l'importance d'un environnement de travail psychosocial sain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, c'est la manière dont le travail est conçu, organisé et géré, ainsi que les pratiques organisationnelles, excusez-moi, qui influencent les conditions de travail au quotidien. Quant au prénom du jour, bien, on fête d'une part les Valérie. C'est le nom de ma filleule, Valérie.
Ah oui.
Un prénom ancien provenant du latin valere, qui veut dire être fort. Et d'autre part, les vitales. On est dans le même thème, hein, même registre. Un autre prénom dérivé lui aussi d'un mot latin, vitalis, qui veut dire qui donne la vie ou essentiel à la vie. Et en passant, Saint Vital était le mari de Sainte Valérie, figurez-vous. Ils étaient faits pour aller ensemble, pas seulement dans leur prénom.
Les deux V.
Tous deux martyrisés pour avoir affirmé leur foi chrétienne. Ça fait très longtemps de tout cela, n'est-ce pas?
Vous poursuivez avec quelques faits marquants qui sont arrivés un 28 avril.
En 1760, c'est la bataille de Sainte-Foy, où les forces françaises menées par François-Gaston de Lévis battent celles de James Murray, mais n'arrivent pas à reprendre Québec, qui est tombé, rappelons-le, en septembre 1759, bien sûr, lors de la tristement célèbre défaite des plaines d'Abraham. Alors, les Anglais, oui, sont assiégés, mais reprendront le contrôle dans les mois qui suivront. Alors, autre tentative avortée. En 1908, fondation de l'Association universelle d'Espéranto. On n'entend plus parler de ça,
non.
Espéranto. Pourtant, ça existe toujours.
Mais ce matin, on entend parler. Grâce
voilà.
À vous.
Alors, je rappelle que l'association a pour objectif de promouvoir et de développer l'usage de cette langue internationale afin de faciliter la communication entre personnes de langues natales différentes. Vraiment l'objectif de départ. Et même si on entend, comme je le disais, peu parler de ça de nos jours, bien, l'association existe toujours et comptait encore 5500 membres en 2015.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Non.
Mais quand même, ça existe toujours.
En 1919, maintenant.
La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, elle s'installe à Genève en 1919. Rappelons qu'elle a été créée à la suite de la Première Guerre mondiale pour maintenir la paix et qu'elle entre officiellement en fonction quelques mois plus tard, le 10 janvier 1920. En 1945, Benito Mussolini, le dictateur italien, est exécuté. C'était bien sûr un des principaux alliés d'Adolf Hitler, de triste mémoire. En 1947, un savant norvégien du nom de Thor Heyerdahl et cinq autres aventuriers quittent le Pérou pour la Polynésie à bord du Contiki. Je ne parle pas du restaurant ici, je parle du radeau de 45 pieds construit avec des rondins de bois qui est en fait une réplique d'une ancienne embarcation Inca. Alors, traverser le Pacifique sur un radeau de 45 pieds, il faut le faire quand même. Hein?
Oui.
Eh bien, ils atteignent leur objectif 3 mois et une semaine plus tard. Le Contiki aborde l'archipel de Tuamotu en Polynésie française. Le savant prouve ainsi sa théorie, selon laquelle les peuples sud-américains ont pu traverser l'océan et s'installer dans les îles du Pacifique plusieurs milliers d'années auparavant.
En
1967, vous reconnaissez le thème, c'est l'ouverture au grand public de l'exposition universelle de Montréal.
Il est dubitatif.
Non, mais ça me disait quelque chose, mais là, je cherchais un lien avec le radeau. J'étais perdu.
Oui, okay. Non, j'étais rendu en 1967, Mathieu, 20 ans plus tard. J'espère que Thor Heyerdahl n'était pas toujours sur son radeau, quand même. Alors, l'Expo 67, bien sûr, ouverture au grand public le 28 avril 1967.
Je me souviens, mes parents y allaient à tous les jours, avec la petite boîte à lunch de Terre des Hommes, le bleu et le sigle.
Moi, je me rappelle, j'avais mon passeport avec ma photo.
Oui, moi aussi, j'ai eu mon passeport. J'étais bien jeune, mais j'avais mon passeport.
En 1969, le célèbre Charles de Gaulle, président français, démissionne suite à la victoire du non à un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Il avait organisé ce référendum à la suite des émeutes de mai 68 et s'était engagé à démissionner s'il le perdait, ce qu'il a fait. En 1973, début des travaux de construction du Stade olympique de Montréal. Un petit peu moins glorieux, ça, que l'Expo 67, mais quand même, ça a fait époque.
Ah, le stade existe toujours.
Il existe toujours.
C'est un de nos monuments.
En 2007, ouverture des trois stations du métro de Laval. Et c'était gratuit toute la journée en 2007. Bravo. En 2009... Beau dommage, le groupe est
en
honoré.
En 67, tout était beau.
C'est en 2009.
Oui.
Mais elle n'est pas tout le monde, Hélène, là.
Non, mais il chantait en 67, c'est tout vrai, était beau dans le raison. Blues de la métropole.
Donc, beau dommage est honoré par l'Assemblée nationale qui adopte une motion unanime afin de souligner la contribution remarquable du groupe au patrimoine culturel et artistique du Québec. Ils avaient bien raison. Et il y a un an, jour pour jour, en 2025, le Parti libéral, nouvellement mené par Mark Carney, son nouveau chef remporte les élections fédérales.
Un an déjà.
Déjà un an.
Allez-y maintenant avec quelques dates anniversaires.
Anniversaire de naissance en 1761. Une certaine Marie Harel invente le camembert.
Pourquoi merci pas? Merci Marie.
Hein, c'est bon le camembert. Il faut savoir que camembert, bien évidemment, c'est d'abord le nom d'un village de Normandie. Et c'est là que Mme Harel s'est mariée. Probablement que c'est en cet honneur qu'elle a nommé ainsi son fromage.
Et je ne savais pas que c'était le nom d'un village.
Oui, tout
Camembert.
À fait. Absolument.
Camembert
en Normandie, à côté de Brie. C'est ça. Et en passant, Marie Harel est née à Croûte.
Okay.
Ça ne s'invente pas, hein, Croûte. Je ne sais pas si c'est la Croûte du Camembert.
Ouais, c'est drôle.
Et Croûte, c'est un autre village de Normandie.
Et ça s'appelle?
Avec deux T.
Oui.
Deux T-E-S. En 1908, naissance de l'athlète canadienne Ethel Catterwood. Qui est-elle? Bien, c'est la première Canadienne à avoir remporté une médaille d'or individuelle dans une compétition olympique d'athlétisme. Ça s'est passé en 1928 aux Jeux d'Amsterdam, au saut en hauteur. Toujours en 1908, l'industriel autrichien Oskar Schindler, qui a sauvé plus de 1000 Juifs des camps de la mort en les faisant travailler dans une usine d'armement, à coups de pots de vin auprès des autorités nazies, rappelons-le, c'est ce qui a permis d'épargner ces Juifs. C'est une histoire, bien sûr, qui a été relatée dans le célèbre film de Steven Spielberg, La liste de Schindler.
Ah, film bouleversant, avec
bouleversant.
Une musique extraordinaire. C'est Liam Neeson qui jouait le rôle titre.
En 1916, l'Italien Ferruccio Lamborghini, créateur de la célèbre voiture sport qui porte son nom, concurrent de Ferrari.
Voiture pas chère, ça. Hein?
Non, c'est ça, c'est une aubaine. Il a lancé cette première voiture, Lamborghini, en 1963. Mais rappelons qu'avant ça, il produisait des tracteurs agricoles à partir de véhicules militaires réformés au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Italie avait bien besoin de se refaire, comme on dit, à tout point de vue. En 1943, le chanteur et acteur français Jacques Dutronc. J'aime les filles.
Ouais.
83 ans aujourd'hui, Jacques Dutronc. En 1946, bien sûr, on en parlait, Ginette Reno. 80 ans aujourd'hui, Ginette. En 1948, la comédienne et chanteuse de jazz, talentueuse chanteuse de jazz d'ailleurs, et aussi animatrice, Dorothée Berryman.
Excellente comédienne dans le déclin de l'Empire américain.
Comédienne. Elle a plusieurs talents.
Très touchante.
Oui, 78 ans aujourd'hui.
Belle voix également.
C'est ça.
Belle voix chantée et belle voix parlée.
Très bonne voix de jazz. Très bonne voix pour chanter
et
du
une
jazz.
Narratrice assez exceptionnelle.
Oui. En 1962, la soprano québécoise de réputation internationale, Lynn Fortin, Elle a, rappelons-le, tenu le rôle de Stella Spotlight dans la création de la version opéra de Starmania. C'était au Grand Théâtre de Québec en 2008.
Stella Spotlight, oui, Diane Dufresne l'avait chanté.
Absolument. En 1963, le patineur artistique canadien Lloyd Eisler, qui, rappelons-le, a formé avec la Québécoise Isabelle Brasseur un des meilleurs couples de patineurs artistiques des années 1990. Et en 1974, Penélope Cruz, l'actrice espagnole, une des muses du cinéaste espagnol Pedro Almodovar, 52 ans aujourd'hui.
C'est d'ailleurs dans un film de Pedro Almodovar où elle a fait la connaissance avec l'homme de sa vie, Javier Bardem.
Javier Bardem, ouais. Absolument.
Et du côté des décès, parce que ça finit comme ça.
Ben oui, on finit tous comme ça, c'est triste. En 1865, Sir Samuel Cunard, qui a fondé en 1838 la compagnie maritime Cunard Line, laquelle est toujours en activité. Donc, ça en fait la plus ancienne entreprise de croisière et de transatlantique.
Ah oui? L'avez-vous déjà utilisée?
Jamais. Non. C'est eux, entre autres, qui ont le Queen Mary II, qui a été pendant longtemps le plus grand paquebot de croisière au monde.
Cunard Line.
En 1902, le prêtre, professeur et généalogiste québécois Cyprien Tanguay. Alors, qui était-il? Embauché en 1865 par le département de statistique du Canada uni, ancêtre de Statistique Canada, il a consulté pendant 25 ans les registres du Canada et des États-Unis pour créer le dictionnaire Tanguay, toujours une référence dans le domaine de la généalogie. Et c'est pourquoi on le surnomme le père de la généalogie canadienne-française. Rapidement, en 1992, le peintre britannique Francis Bacon, un des plus célèbres peintres britanniques du 20e siècle, et en 2002, autre grand peintre, le Montréalais Stanley Cosgrove, nous quittait.
Oui. Wow! Merci pour cette super belle chronique complète de ce 28 avril, André. Et on va se retrouver, non pas la semaine prochaine, mais l'autre.
Dans deux semaines.
Vous allez nous parler de votre voyage.
Du Portugal.
En Algarve, entre autres?
En Algarve, surtout.
Surtout, particulièrement. Merci, bonne journée, à la prochaine.
Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais, c'est recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre. Les fendre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. moins qu'il puisse arriver, être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, s'est inspiré à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours mon amour.
Évidemment, Ginette Reno qui chantait cette fois L'Essentiel.
Oui, Ginette Reno qui est à l'honneur aujourd'hui, elle qui célèbre ses 80 ans. Et nous, on lui rend hommage en chanson. Quelle voix extraordinaire, n'est-ce pas, Michel?
Effectivement, elle aurait pu avoir une grande carrière internationale, si je comprends bien, si elle avait voulu. Mais elle en a eu quand même une très grande au Québec. Et puis... c'est une grande artiste.
Oui, oui.
Elle n'a pas fait seulement de la musique. Hein. Elle a joué dans des films, elle a écrit des livres. C'est assez... quelqu'un de multi... elle a touché à plein de choses, puis elle a réussi.
Une femme charismatique. Et peut-être qu'elle n'a pas fait la même carrière que Céline Dion, mais elle est connue aussi en dehors des frontières canadiennes parce qu'elle a fait des sauts quand même aux États-Unis puis en Europe.
Oui.
C'est une femme formidable qui a fait des choix dans sa vie qui ont fait en sorte qu'elle n'a pas eu le rayonnement qu'elle méritait. Mais c'est ses choix à elle et on la respecte.
Exactement. Puis c'est pas par manque de talent. Elle avait rien envie.
Non, c'est une chanteuse, une des plus grandes voix que j'ai jamais entendues de ma vie. Et puis, elle a chanté aussi pour les Canadiens de Montréal pendant les séries. Pas cette année, là, peut-être qu'elle va nous faire la surprise, qui sait, mais c'est un lien pour vous amener à votre sujet du jour, les séries éliminatoires de hockey qui nous font vibrer. Et même si le Canadien de Montréal gagne pas tous les matchs, d'autres en sortent gagnants, Michel.
Ben oui, le match canadien, ça nous fait sortir. Puis effectivement, il y a d'autres gagnants. Puis c'est pas seulement des petits vendeurs de drapeaux qu'on met sur nos voitures. Là.
Ah oui, on en voit beaucoup quand même. Hein?
Ben oui, c'est ça. On a juste à regarder les matchs canadiens. On nous montre les foules à l'extérieur du Centre Bell là, qui écoutent sur des écrans géants.
Oui.
Dans les restos, les bars sportifs, les brasseries, tous des commerces là, qui se remplissent, qui font des bonnes affaires.
Ça fait rouler l'économie en tout cas.
Ça fait rouler l'économie. Puis ce qu'on nous dit, c'est que l'impact pour ces commerces-là, si on parle des restos, les bars sportifs, c'est surtout en semaine qu'il y a une différence. La fin de semaine, en dehors des séries éliminatoires, c'est déjà achalandé. Puis la différence pendant les séries, c'est que les gens arrivent de bonne heure puis partent tard, donc il n'y a pas beaucoup de roulement. Donc, il n'y a pas un gros accroissement de revenus les fins de semaine, mais...
La semaine, ça paraît plus,
une nouvelle clientèle. Puis c'est pas seulement proche du Centre Bell, c'est en banlieue également. Là. C'est difficile de quantifier, mais certainement, on n'a pas les chiffres pour cette année. Mais si on regarde l'an dernier, les Canadiens s'étaient inclinés au premier tour des séries, mais il y avait quand même eu des matchs éliminatoires là, dans cette première série contre les Capitals de Washington. Au troisième match, là, donc ils ont joué deux matchs à Washington. Le troisième match de la série, c'est le premier à Montréal.
À Washington?
Les dépenses dans Pardon?
À Washington?
L'an dernier.
OK. Là, je t'ai rendu cette année.
C'est ça. On n'a pas de chiffres encore pour cette année,
d'accord.
Mais l'an dernier, là, donc il avait été éliminé par les Capitals de Washington.
Okay.
Donc, au troisième match à Montréal, les dépenses avaient bondi de 41% dans les restaurants de la région de Montréal, puis 33% proche du Centre Bell. Donc, c'est pas juste proche du Centre Bell, c'est ailleurs aussi. Puis lors du quatrième match, le deuxième match, 45% puis 35%. Donc, ce sont des accroissements qui sont... significatif. Là. On dit que lors du parcours des Canadiens en finale de la Coupe Stanley en 2021, souvenez-vous, c'est l'année une année marquée par la COVID, des partisans autour du Centre Bell là, pour le quatrième match, où il y avait beaucoup de gens qui étaient proches du Centre Bell, puis les dépenses ont augmenté de 183% avant le match.
Wow.
C'était énorme.
Ben, plus il se rapproche de la Coupe Stanley, plus c'est payant.
Oui, exactement. Là. Puis il n'y a pas seulement les restos qui en profitent, là, les magasins de sport également. Là, par exemple, on disait pour cette année, le magasin Rousseau Sport de Boisbriand a fait plein de chandails et d'accessoires du Canadien dans les derniers jours. Tout le monde, là, on regarde au Centre Bell, tout le monde est habillé en rouge. Bon, c'est pas tous les gens qui avaient déjà un chandail des Canadiens. Il y en a qui en ont fait l'acquisition cette année. Là, pour,
ils ne sont pas donnés ces chandails-là, hein, parce que j'ai voulu en acheter un pour mon filleul. Ben, j'ai acheté un T-shirt finalement, mais il n'était pas donné non plus. Mais les T-shirts, ouais. les chandails rouges là, à l'effigie de joueurs d'hockey avec des numéros dans le dos. En tout cas, vous savez, ceux que les joueurs d'hockey portent finalement, ils sont autour de 200 $ là. Les vrais de vrais, là.
Les vrais officiels, là, c'est ça, c'est en haut de 200 $ là.
Mais ils sont très bien faits, c'est de la qualité et ça peut durer très longtemps si on sait les entretenir. Mais,
le chandail va durer longtemps, mais si le joueur est échangé, il faut en acheter un autre.
Non, mais c'est pour ça, on n'est pas obligé, on peut acheter, je pense, un chandail sans nom.
Sans nom, hein, c'est ça.
Ouais.
Ou avoir un système de velcro, là, on change le nom. J'avais entendu, j'essayais de retrouver ça sur le web, je ne l'ai pas retrouvé, mais pendant un reportage d'un match des Canadiens, il disait que le chandail du Canadien est le plus vendu à travers la Ligue. C'est, comme je vous dis, je n'ai pas trouvé de confirmation sur le web, mais je ne serais pas surpris. Là, quand on regarde les matchs du Canadien un peu partout, on voit toujours des partisans des Canadiens qui ont les chandails là, dans toutes les arénas de la Ligue. Là. Ce n'est pas si surprenant là, que ce chandail-là, le Canadien qui fait partie d'une équipe là, originale, là, des six premières équipes de la Ligue.
Ouais.
Donc, il y a une longue tradition. Le chandail est classique, il n'est pas extravagant. C'est un beau chandail classique. Donc,
tout à fait. Ça ne se démode pas.
Il est exactement là. Peut-être là, juste en terminant, là, je sais que vous avez un programme chargé aujourd'hui. On parle des Canadiens, mais je voulais souligner que le 2 mai, la victoire, l'équipe de hockey féminin de Montréal va commencer ses séries contre le Frost du Minnesota. Puis les deux premières parties sont à Montréal ou à Laval, à la Place Bell, donc le 2 mai puis le 5 mai. Puis s'ils sont peut-être pas aussi populaires que le Canadien, ben il y a quand même des gens qui vont aller les voir et attirent de bonnes foules, puis sûrement que les commerces autour vont en profiter également.
Ah, absolument. Donc, et j'invite les gens à lire aujourd'hui dans la Presse Plus, là, ça fait la une, entre autres, une histoire de détermination. On a rencontré la joueuse d'hockey Laura Stacy, qui n'a pas mis longtemps à se faire aimer des partisans de la victoire, écrit-on. C'est un dossier de Catherine Harvey.
Moi, j'aime beaucoup le hockey féminin. Là, quand on regarde aux Olympiques, tout ça, c'est toujours du beau hockey, sans peut-être les aspects désagréables du hockey masculin, les batailles et les bousculades inutiles. Ça. Donc,
Il y en a pas mal de batailles. C'est assez intense et même dérangeant par bout. Mais on continue de regarder puis d'encourager les Canadiens de Montréal, même si on commence à avoir chaud.
ils sont à Tampa, là. Faut qu'ils gagnent deux des trois prochains matchs. Ça va être une grosse commande, mais on a une équipe qui a rebondi souvent cette année, là. À chaque fois qu'on les croyait au plancher, elles rebondissaient. Alors, on va espérer qu'ils vont rebondir une fois de plus.
Oui. Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Go Habs, go! Ah.
Go Habs, go! À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
La levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour. Pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée sur un plateau. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté sur une
jamais quitté, sans regretter. Puis nous dînerons de paroles et de rêves, nous goûterons à l'amour et l'eau fraîche. Et puis quand viendra le nouveau matin, on sera si bien. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté, sur une musique venue d'un ciel de mai, que tu ne voudras plus jamais quitter.
Décroissant de soleil, une chanson évidemment de Ginette Renaud.
Oui, décroissant en lien avec le Biblos, le petit café qui est extraordinaire aussi, comme la voix de Ginette Renaud. Un petit café qu'on aime bien fréquenter. On y va une fois, puis après ça, bien, on devient des adeptes. Et qui est derrière ce petit café? C'est la propriétaire Emela Pourafzal qui est avec nous en studio. Bonjour Emela.
Bonjour.
Je peux vous appeler par votre prénom?
Ah, je vous en prie.
Oui. Alors, vous avez un très joli prénom. Est-ce que c'est un prénom qui est courant là où vous êtes née, en Iran?
Je suis née en Iran. Le prénom n'est pas très courant en Iran.
Non.
C'est un prénom, c'était l'ancien.
Un ancien prénom.
Oui, exactement.
Ah, OK, d'accord. Alors, Emela, bienvenue à Canalem de Vues et Voix. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. J'ai l'impression de vous connaître, étant donné que j'ai regardé le documentaire qui porte votre prénom, documentaire qui est réalisé par Pirouz Nemati. Bonjour, Pirouz.
Bonjour.
Je peux aussi vous appeler par votre prénom?
Oui, bien sûr.
D'accord. Alors, allons-y avec vous, Emela. Votre vie traverse 8 décennies. Vous avez plus de 80 ans. Vous êtes un peu plus vieille que Ginette Renaud, je crois.
Oui, 85.
85. Et votre vie est très riche en toutes sortes d'expériences. On peut le constater en regardant ce documentaire qui est présenté à partir d'aujourd'hui au rendez-vous Québec Cinéma, à la Cinémathèque, en soirée. On y reviendra à la fin avec les coordonnées encore plus précises. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de partager ces souvenirs à travers un film?
C'est Pirouz.
Oui.
Moi, je ne l'ai jamais cru. Il est venu me dire que je vais faire un film de toi. Je dis OK, comme je la connaissais.
C'était pas pourquoi, mais, c'était OK.
Mais il a travaillé vraiment durement.
Ah oui?
Il a cherché des documents que je ne connaissais pas. Je ne me rappelais même pas qu'ils existaient.
Comme quoi, par exemple?
La première fois quand je parlais à la radio pour Nouvel An iranienne, j'ai dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Mais il a tout trouvé dans toute mon archive, là, que je ne regarde pas. Mais il a vraiment bien travaillé.
Ah, mais c'est un beau compliment, très, très ça, Pirouz. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'histoire d'Emela au point d'en faire un film?
Bien sûr, je travaillais pour Emela à Biblos pendant des années.
Ah oui?
On est devenus des amis. Emela avait beaucoup d'histoires. On vit vraiment extraordinaire, je peux dire.
C'est vrai.
Elle a fait beaucoup de différentes choses, de différents travails. Elle habite un peu partout. C'était tellement intéressant. Et je vous... dire son histoire.
Une histoire complexe qui... Et votre film se concentre sur la vie d'Emela, mais il raconte aussi une histoire collective.
Alors,
c'était votre objectif, ça, d'aborder l'intime et aussi d'aller plus largement, là, même en politique. Là,
c'est ça. C'est pas un film... politique, mais Je pense qu'Emela avait... Emela est une politicienne, on peut dire.
Ah oui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Emela?
Elle est l'ambassade, pas officielle, mais ambassade d'Iran à Montréal, ambassade culturelle, sûrement, voilà.
Vous êtes arrivé à quel âge, Emela?
À Montréal, vous
voulez dire? Oui, à Montréal.
J'avais 36 ans.
36 ans, parce que vous êtes partie de votre pays natal, mais pour aller vivre, je pense que c'était sur la Côte d'Azur?
Non, d'abord à Paris, après en Suisse, après à la fin.
Oui, oui, vous avez beaucoup voyagé. Oui.
Oh, j'ai vécu dans les pays.
Mais est-ce que Montréal, c'est votre ville, c'est la ville où vous avez vécu le plus longtemps?
Oui.
Oui?
Mais quand je suis arrivée ici, je me suis dit... C'est là que je vais rester tout le temps.
Ah oui, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu cette espèce de révélation-là?
C'est à cause des gens, des Québécois. Ils sont tellement gentils. La vie facile ici, et, bon, ça a changé un peu, mais avant, ça a été vraiment le paradis pour habiter à Montréal.
Ah oui?
Oui.
Et bon, vous êtes toujours propriétaire du Biblos.
Oui.
Le restaurant existe toujours. Qu'est-ce qui fait que c'est un lieu incontournable, que les gens, quand on y va une fois, dans votre film, on voit le cinéaste Denis Villeneuve qui va manger la fameuse omelette au feta avec Annette depuis une trentaine d'années. Pourquoi vous pensez que les gens reviennent toujours? Bien, j'imagine que c'est bon.
Ben...
Oui, je le sais que c'est bon, parce que
je
suis
déjà allée. Je ne sais pas, c'est trop difficile à expliquer, mais moi, je voulais faire un restaurant. Ce n'est pas un restaurant, c'est chez moi.
Oui.
Donc, quand
les gens viennent... Vous dites que c'est comme votre enfant.
Oui, exactement. Quand les gens viennent, je trouve... c'est comme si tu as des invités chez toi. Donc, je ne les prends pas comme clients. Je les prends comme des amis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup...
Même si ça fait... Si on y va pour la première fois, vous allez nous accueillir comme si on était...
Au début, ben, quand on dit la première fois, je lui dis, ah, quand même. Ben, après, quand je leur parle...
Il était temps.
Oui, il était temps, comme vous dites. Après, quand il dit, ah, c'est pas... je reviens. Donc...
Ouais.
Ouais.
Et comment vous décririez Emela... Pirouze, si je vous disais de la décrire en trois mots.
C'est difficile. Peut-être Emela pour dire
mieux
que moi.
Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Parce que vous la connaissez, cette dame. Vous avez fait ce film. Vous avez travaillé dans son restaurant.
Dire, extraordinaire. Une femme extraordinaire. Une matriarche qui est la reine de Biblos, en fait.
Oui.
Pour moi, c'est la personne qui
Mais c'est la reine.
Ouais. Oui,
c'est
ça.
Oui, la reine qui a le contrôle, mais qui contrôle bien. qui est pas... vous dites les choses à vos employés parce que vous êtes une perfectionniste. Vous voulez que les clients... Ben non, vous ne dites pas les clients. Vos amis soient heureux quand ils fréquentent votre restaurant. Moi, à la fin du film, je réfléchissais puis je me disais les trois mots. C'est une femme libre, jeune d'esprit et audacieuse. On vous voit avec votre ex-mari. Vous avez une relation particulière avec votre ex-mari.
Bien, malheureusement, il est décédé maintenant, mais on a eu... Moi, je dis toujours divorce.
Les condoléances.
Divorce, OK, mais les enfants, c'est quand même le père de ma fille.
Oui, oui.
Moi, je l'ai gardé comme ami, oui.
Mais lui, il aurait pu décider de ne pas vous garder comme ami.
Ben oui. Mais... Je crois que c'était pas un bon mari, mais c'est un bon ami.
Un bon ami et un bon père aussi.
Oui.
Comme ça. Je suis pas convaincue. Et votre fille vous a donné des petits-enfants?
Ah oui, que je les adore, là. C'est comme si j'ai trois enfants.
Ah oui. Ah oui, on vous voit regarder le soccer, le foot avec eux.
Ouais.
Vous êtes une partisane.
De tous les sports.
Ouais. Oui. Et c'est beau à voir. Et vous jouez, je ne sais pas si vous jouez encore au tennis?
Malheureusement pas, parce que mon genou ne me permet pas.
Ah, vous avez joué longtemps quand même.
J'ai joué beaucoup. J'ai joué trois fois par semaine jusqu'à avant COVID.
Okay.
Après, j'ai mal et puis je me vois courir et je me déteste.
Bon, est-ce que vous faites d'autres sports?
Ben, c'était golf, c'est pareil, c'est avec le genou, je peux pas. Mais ouais. Malheureusement, je suis
handicap. Vous êtes active dans votre restaurant.
Voilà.
Ouais. Tous les jours.
Et puis, je veux pas... Oui, tous les jours.
Tous les jours? Mais vous habitez pas loin, là. Je pense que vous êtes mais à côté ou au-dessus. Oui. Ouais.
Mais il fallait opérer, mais je veux pas opérer parce que je sais qu'après opération, pendant longtemps, je suis immobile. Et ça, je l'aime
oui,
pas.
Oui, vous n'avez pas la patience là, de rester immobile, de vivre le rétablissement.
Exact.
Mais en tout cas, peut-être que ça vaudrait la peine. Je ne suis pas médecin, là, mais...
Mais
c'est votre décision.
C'est long.
Oui. Le documentaire met en lumière des histoires de femmes iraniennes, celles d'Emela, bien évidemment. Mais pourquoi c'est important pour vous que ces voix soient au centre du récit, Pirouz?
Oui, alors... Je pense avant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, j'ai commencé ce projet avec Emela à penser de ça, parce que les femmes iraniennes sont vraiment des femmes fortes et courageuses. Emela est un exemple, bien sûr. Et voilà, je vous juste partager son histoire un peu mm-hmm. de femme iranienne qui les gens ne connaissent pas très bien. Et, voilà, c'est, il y a, je pense, 3 ans maintenant que le mouvement a commencé en Iran et ça a changé beaucoup déjà. Et c'est la femme qui l'a fait. Organiser entre eux et... courageuse de prendre les risques, mais ouais. Pousser le...
Ça demande un courage immense, là, parce que c'est leur vie souvent qui sont en jeu.
Et ça a changé beaucoup, déjà.
Et on voit des images d'archives où on voit que les Iraniennes ont été des femmes extrêmement libres.
Ben oui.
Vous l'avez vécu, cette époque-là?
Ben bien sûr.
Oui.
Pendant que j'étais en Iran, ça a été comme ça, parce qu'après, moi, je suis sortie 67 d'Iran.
OK, l'année donc, de l'expo ici à Montréal.
Je n'ai pas vu avec les voiles et tout ça, mais j'ai entendu.
Oui.
Voilà, on était tellement libres.
Et vous accordez une entrevue dans le documentaire à un journaliste de Radio-Canada où vous parlez de votre inquiétude par rapport à votre pays natal. C'est toujours le cas?
Ben oui.
Oui. Est-ce que vous avez encore de la famille, des liens?
Ben, lointaine, mais quand même.
Oui?
Oui. J'ai des familles, mon téléphone pour dire qu'ils sont bien, mais mm-hmm. rarement, là, parce que c'est très difficile à téléphoner.
Ouais. Vous ne pensez pas y retourner un jour?
Comment?
Est-ce que vous pensez quelquefois y retourner?
Ben là, s'ils sont là, non.
Oui, pas dans cette...
Ça fait des
non,
années,
parce
ça
que
fait...
Dans ce contexte. J'ai dit que je voulais que ramener les morts et tout ça, je ne crois pas que je peux rentrer. Je ne peux pas aller en Iran.
Mm-hmm.
Pourtant, j'aime mon pays, là, mais... J'espère qu'ils ne vont pas rester.
Et le Biblos, est-ce que vous voyez, est-ce que vous allez transmettre, vous transmettez déjà vos valeurs et à tous ceux et celles qui vous entourent, mais est-ce que vous pensez, à un moment donné, mettre la clé dans la porte ou vous dites, ça va continuer avec quelqu'un d'autre qui est là?
Mais il y a mon petit-fils qui commence à travailler avec moi, qui va le prendre. Moi, je sais, mais il est trop jeune quand même, mais... Je crois qu'il va le prendre.
Oui, il s'appelle comment, votre petit-fils?
Raisin.
Raisin?
Raisin.
Raisin, pardon. franchement, j'ai des problèmes d'ouïe. et aussi, on voit... J'ai appris à faire l'omelette, mais c'est jamais bonne comme celle de chez Biblos, là, en regardant un jour Sylvie Morlot. Sylvie Morlot, ça fait longtemps dans l'émission des Kiwis aussi. Des hommes, qu'on voit aussi dans le documentaire. Ouais. Et vous arrivez en surprise pour donner votre recette. Vous êtes généreuse de donner vos recettes.
Plusieurs fois que je donne les recettes.
Oui.
Mais à chaque fois, les gens viennent et disent, c'est pas la même chose.
Est-ce qu'on termine avec la recette en quelques secondes? Là? Comment on fait cette omelette-là? Faut battre les œufs.
Non.
Ah.
D'abord fondre le.
Oui.
D'abord fondre
le feta. Oui.
Après, quand il est bien fondu, on met des œufs, on le mélange, on met échalotes, et puis on le mélange. Ben voilà, après c'est fini.
Et puis on met Annette.
Le beurre.
On met Annette et on met l'amour.
Oui, parce qu'à un moment donné, Denis Villeneuve, il goûte à l'omelette et dit ah, elle est bonne, mais c'est pas Emela qui l'a fait. L'amour, c'est un ingrédient essentiel,
et
vous en dégagez plein, Emela.
Dans tous les plats.
Oui. Alors, j'invite les gens à aller voir ce documentaire de de Pirouze Nemati, qui s'intitule Emela et qui met en vedette Emela pour Absal. Est-ce qu'il va être présenté en dehors du rendez-vous Québec Cinéma?
Oui, on n'a pas sûr quand, mais sûrement.
OK, on va suivre ça.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est déjà sold out. On a beaucoup d'amis de MLA.
Parfait. Alors, on tiendra nos auditeurs et auditrices au courant. C'est à 19h45 ce soir. Bon succès, bonne santé.
Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est l'heure de la chronique sur le défi sportif Altergo et on joint là-dessus notre reporter que vous connaissez bien, Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Bien, ça va bien, merci. Alors vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Là, vous commencez par quoi?
Bien, chaque jour, là, dans le cadre du défi sportif au Centre Brebière, il y a des activités sportives pour les jeunes qui sont dans les écoles. Et à chaque jour, il y a une cérémonie d'ouverture. Et dans la cérémonie d'ouverture, on accueille les athlètes. Après ça, il y a un spectacle. Après ça, plein de choses. Comme n'importe quelle grosse compétition multisport, un peu comme les Jeux olympiques. Donc, à chaque jour, un petit peu de Jeux olympiques. Et un des moments importants qui a été fait par Chloé Pellan-Lambert, qui est une des porte-parole du défi sportif. Elle, c'est la jeune femme de 21 ans, a participé plusieurs fois au défi sportif, a fait plusieurs sports, natation, de la para-athlétisme. Et hier, elle a fait le serment de l'athlète et on a enregistré son serment de l'athlète.
Je promets de participer aux compétitions en suivant les règles et en ayant du plaisir. Je m'engage à ne pas tricher et à respecter les autres athlètes. Je promets de ne pas faire de discrimination et de faire preuve d'un esprit d'inclusion. Je m'engage à honorer les valeurs du défi sportif Altergo. Pour faire briller le potentiel de tous les jeunes d'ici à travers le sport.
Bravo, merci Chloé. Chloé, c'est son dernier défi. Félicitations et surtout, bonne chance Chloé.
Ah oui, alors respect des règles, des athlètes, plaisir, inclusion, Dominique, c'est important.
Oui, très très important. C'est une des bonnes valeurs là, du défi sportif Altergo. C'est bien de rappeler que Chloé Pellan-Lambert a une déficience visuelle
oui.
Et elle lisait le serment de l'athlète avec le braille. Donc, c'était très intéressant. Et vous, Hélène, vous n'étiez pas en onde. Hier, j'ai parlé avec Denis Martin. Mais vous étiez au défi sportif au Centre Brebière.
Oui.
Pour vivre cette cérémonie.
Oui.
Qui est très, très émotive plusieurs fois. Comment vous avez trouvé ça, vous?
Ah, j'y étais avec le directeur de la radio, Jean-Sébastien Laliberté, que vous connaissez bien, Dominique. Et j'ai vécu un moment, lui, ça faisait 4 années qu'il y allait. Il me dit, on y va une fois, puis on peut plus s'en passer après. Et on parlait même, c'était Maxime, le directeur, qui parlait de secte. on est comme pris au piège tellement, on vibre à tout ce qui se passe. C'est une grosse vague d'émotions. Encourager les athlètes, leur taper dans les mains quand ils voulaient, bien sûr. Et il y en a Il y en avait tellement. Bien, hier, c'était 700 athlètes, mais je sais qu'il y en a plus là, qui vont participer. Est-ce que ça se peut que ça soit 6000 athlètes?
Oui, ça, c'est au total de tout le 10 jours de compétition.
Okay.
C'est 6000 athlètes. Donc, chaque jour, il y en a entre 500 et 800.
Alors,
hier, c'était 700, donc c'est ça.
Oui, je me sentais privilégiée d'être dans la haie d'honneur. Et il y avait plein de sourires. Les athlètes en situation de handicap, bien... Comme vous dites, ce sont des athlètes, point. Et c'est ce qu'on réalise aussi. Et on réalise aussi qu'ils n'ont pas énormément de exposure, de visibilité, les athlètes en situation de handicap. Et ça fait du bien de les rencontrer, de les voir à l'œuvre. Et j'ai eu la chance aussi, j'ai pensé à vous, Dominique, parce que j'ai eu une leçon de boccia. par la médaillée de bronze qui était tellement sympathique, qui nous invitait à aller voir les compétitions avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Alors, j'ai beaucoup aimé mon avant-midi. Ensuite, on a fait la visite de quelques stations. J'ai vu du basketball, du baseball, de la course, de l'athlétisme. C'est très palpitant. Il n'y avait pas énormément de monde dans les estrades, mais je me dis que, bon, on était lundi aussi, là, lundi matin, ouais, très tôt. Oui. Et j'espère que ça va être plein parce que c'est extrêmement, bon, le mot galvaudé, c'est inspirant, c'est vrai que
oui,
ce l'est.
C'est toujours comme ça.
Et c'est excitant aussi. À un moment donné, là, on est complètement dans le sport, on suit l'action et c'est ça qui est impressionnant aussi.
Bien, c'est très bien. Alors, les compétitions se poursuivent aujourd'hui. Il y a des compétitions, évidemment, scolaires. Il y a les compétitions de la Coupe du monde de rugby, de boccia, qui se déroule à l'Arena Maurice Richard. Il y a 21 pays qui participent à cette compétition, 82 athlètes. Les premiers matchs ont commencé à 9h. On est présentement la deuxième ronde de matchs et ça va se dérouler comme ça jusqu'à dimanche. Il y a aussi des compétitions de championnat canadien de curling en fauteuil roulant qui a lieu et les compétitions plus tard là, dans la semaine, on va en parler un peu plus tard, de basketball en fauteuil roulant. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se déroulent dans le cadre du défi sportif et évidemment, comme vous en avez parlé très bien, c'est un événement qui fait connaître les sports pour personnes avec une déficience, n'importe quelle, pardon, déficience. Donc, ouais. C'est une belle expérience puis on vit ça chaque année, donc c'est très bien.
Oui, vous parlez pas fort, là, vous êtes où?
Ben, je suis exactement là, à l'Arena Maurice Richard. Il y a des joueurs de boccia là, juste en face de moi. Il y a un match entre un athlète de Singapour et un athlète du Brésil. On est présentement à la troisième manche et l'athlète de Singapour dans la classe B mène 7-0 contre l'athlète du Brésil. Je m'aurais attendu un match un petit peu plus serré. Mais c'est intéressant de voir l'athlète de Singapour qui s'illustre présentement sur le terrain numéro 2.
Mais comme dirait l'autre, c'est pas fini tant que c'est pas fini.
C'est en fait ça, il reste plein de balles encore à lancer.
Merci beaucoup Dominique, on se retrouve demain à la même heure. Bonne journée.
Ça fait plaisir, au revoir.
Ne m'en veux pas si je t'aime toujours comme avant. Ne m'en veux pas si je pense encore à toi souvent. Ne m'en veux pas quand j'ai le cœur dans le brouillard. Si certains soirs je te téléphone un peu tard. Ne m'en veux pas, c'est dur de tout recommencer. Ne m'en veux pas, tu verras, j'y arriverai. Ne m'en veux pas, il faut du temps pour oublier. Pour t'oublier. Ne m'en veux pas, je sais qu'elle est belle, que tu l'aimes. Ne t'en fais pas, je suis pas le genre à faire des scènes. Ne m'en veux pas, quand je lui demande tes nouvelles. Ça me fait du bien de parler de toi avec elle. Ne m'en veux pas, tu es mon amour, mon histoire. Ne m'en veux pas si tu es le crayon de ma mémoire. Ne m'en veux pas, il faut du temps pour effacer. Tout effacer. Tout cet amour qu'on a bâti jour après jour. Tout cet amour, je sais qu'il est mort entre nous. Mais cet amour, il colle à ma peau chaque jour. Qu'il est mort entre nous, mais cet amour, pour moi, il durera toujours. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas si je suis toujours amoureuse. Ne m'en veux pas si tu me trompes.
trouve trop curieuse. Ne m'en veux pas si j'ai envie de te revoir. Ne t'en fais pas, ce n'est rien qu'un peu de cafard. Ne m'en veux pas si je ne peux pas te détester. Ne m'en veux pas, je voulais te dire que je t'attendrai. Ne m'en veux pas si je ne peux pas t'oublier. Tout cet amour qu'on a bâti jour après jour, tout cet amour, je sais qu'il est mort entre nous, mais cet amour, il colle à ma peau chaque jour, ne m'en veux pas. Tout cet amour qu'on a vécu jour après jour, tout cet amour, je sais qu'il est mort entre nous, mais cet amour, pour moi, il durera toujours. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas.
Ne m'en veux pas.
Oui, une chanson de 1988 par Ginette Reno qui célèbre ses 80 ans. Aujourd'hui, on vous le rappelle, une chanson écrite et composée par Jean-Jacques Lafont qui lui a fait la surprise de sa présence en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé le spécial hommage à Ginette Reno en direct de l'univers. Et moi, je l'avais programmée bien à l'avance, cette chanson, quand j'ai entendu Ginette Reno dire que c'était la chanson qu'elle préférait interpréter. Alors, j'étais très heureuse de l'entendre. C'est une de ses bonnes chansons. On entend les années 80, mais sa voix est étincelante dans cette chanson « Ne m'en veux pas ». Alors, Anne-Marie Aubin, j'espère que vous ne nous en voulez pas aujourd'hui puisque vous passez un petit peu plus tard qu'habituellement à cause du défi sportif ou grâce, je ne sais pas, du défi sportif Altergo, mais vous êtes là et vous avez tout votre temps, Anne-Marie. Bonjour.
Aucun problème.
Merci.
Alors moi, parlant de célébration, je parle du Prix des libraires, dont le gala a lieu ce soir,
oui.
Donc où nous connaîtrons les titres gagnants. On rappelle qu'en février, on révèle toujours la liste préliminaire. Cette année, il y avait moins de titres. Il y en avait 8 par catégorie. Habituellement, je pense qu'il y en a 10 ou 12. Ensuite, en mars, on a nommé les finalistes, c'est-à-dire 4 par catégorie. Et puis dans les catégories, il y a des livres pour enfants, des livres pour adultes, des essais. Et puis dans ces titres-là, j'en ai choisi deux que je voudrais présenter aujourd'hui.
D'accord. Alors, on commence avec « Comment sauver des chevaux sauvages ».
Alors, magnifique livre qui risque fort de gagner dans la catégorie littérature jeunesse. Ce
ah
serait
ouais?
pas le premier que André Poulin rapporte. Elle en a eu d'autres déjà. Mais c'est un livre vraiment intéressant, basé sur un fait vécu, écrit par André Poulin, qui est journaliste de formation, et ça se sent quand elle fait des recherches, elle a toujours des sujets d'actualité et originaux, surtout très originaux. Alors, dans ce livre-là, elle a choisi d'écrire ça sous forme de lettres. Et c'est illustré par les illustrations merveilleuses de Caroline Lavergne, qui avait déjà publié avec Christine Beaulieu « Les saumons de la Mythis ». Où elle a dessiné des milliers de poissons. Elle est comme spécialiste du dessin animalier. Et dans ça, ce sont les chevaux sauvages et les paysages de l'île de Sable. Ça, c'est pas loin de la Nouvelle-Écosse, où se trouvent effectivement des chevaux sauvages depuis plus de 250 ans, je crois. Donc, c'est un roman illustré, basé sur un fait vécu sous forme de lettres. Donc, déjà, on est dans quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, pour résumer cette histoire-là, c'est que il y aurait un Américain de Boston qui aurait envoyé vers 1737 des chevaux sur l'île pour aider les naufragés qui se retrouvent sur les côtes, parce qu'il paraît qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de naufrages autour de cette petite île qui s'appelle l'île de Sable. Un autre fait qu'on raconte, qui est peut-être plus véridique, c'est qu'en 1755, quand il y a eu la déportation des Acadiens, il y a eu un bateau qui a transféré des porcs, des chèvres, des moutons et des chevaux. Et ces chevaux-là, qui étaient du type acadien, étaient avec des pattes basses, des gros sabots, qui sont faits pour finalement bouger dans le sable et non pas des petites pattes fines comme les autres.
Des chevaux de traite, souvent, qui sont comme ça.
Sont les seuls qui ont survécu. Les moutons, les chèvres, les autres animaux n'ont pas survécu. Donc, il y en a encore aujourd'hui. Mais le fait historique qui a intéressé André Poulin, c'est qu'en 1960, le gouvernement canadien a décidé qu'il allait tout abattre ces chevaux-là pour faire de la viande de chien, pour les chiens, ou encore les envoyer dans des mines pour travailler. Pourquoi? Pour des raisons humanitaires. Alors là, l'histoire commence avec une lettre d'une jeune fille qui s'appelle Zoé, qui crie à son grand-père que lui, il a été gardien de phare sur cette île-là pendant 10 ans, puis elle dit, écoute, on peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, faire de la viande à chien avec des chevaux. Lui, il lui explique que les chevaux, l'été, ça va toujours, mais l'hiver, ils ont bien du mal à se nourrir parce que, bon, le foin qui est là est moisi sous la neige, puis pour avoir de l'eau fraîche et non pas de l'eau salée, il faut qu'ils grattent dans le sable. Et dans le sable, il y a du quartz qui va abîmer les dents des chevaux, puis qui fait qu'à ce moment-là, ils ne pourront plus manger. Bref, ils sont en danger de mort. Et c'est pour les sauver que le gouvernement veut faire ça. Mais la jeune fille ne prend pas ça comme ça du tout. Elle va écrire à toutes ses amies qui sont, comme elle, des professeurs. Puis à travers le Canada, il va y avoir des centaines de lettres qui vont arriver signées par des enfants. Et c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est qu'elle a sans doute imaginé tout ça, là, mais on voit les lettres. Alors, il y a, par exemple, ça va être écrit cette île, Chibougamau, puis il y a une date. C'est toujours en 1960, autour du mois de mai. Et puis, les enfants écrivent avec une certaine sincérité, on y croit du moins, et ils vont se confier sur d'autres choses qu'ils vivent dans leur vie, pas juste l'histoire des chevaux. Ils vont proposer des solutions, il y en a même qui vont promettre des récompenses. Alors, par exemple, Hubert Leblanc, 4e année de Saint-Boniface à l'école Louis-Riel, veut déménager sur l'île, parce que là, il y a du silence, et chez eux, il y a de la violence, et il n'en peut plus. Et il va lui écrire plusieurs fois, puis il attend toujours une réponse, puis... Ensuite, il y en a un autre, lui, il s'appelle Pierre Franqueur de Trois Pistoles, qui dit que lui, il veut aller faire des fouilles parce qu'il doit avoir des épaves là-bas. Et à Bouctouche, Martin Mignot, qui est un descendant de famille acadienne, va écrire aussi. Bref, il y en a qui lui promettent des récompenses si jamais il le fait. Et c'est ce qui va arriver parce qu'il va finalement changer d'idée. Et il y a Jérôme Vigneault, qui lui habite à Havre-Saint-Pierre, qui dit « Moi, là, ma grand-mère fait la meilleure tarte au chicouté de la place. Sa grand-mère, elle excelle. Puis il dit, je promets que je vais en envoyer si jamais vous acceptez de ne pas toucher aux chevaux. Sinon, il dit, et je cite, ma proposition est excellente. Si vous ne l'acceptez pas, vous ferez une grosse erreur et vous n'avez pas d'affaire à être notre premier ministre. C'est très drôle. Alors, ce qui va arriver, c'est que Caroline Lavergne illustre ça avec beaucoup de talent, les paysages, les chevaux, les ciels. Et là, on voit tout à coup, en sombre, une seule couleur, John Diefenbaker à son bureau qui reçoit deux lettres. Puis un peu plus loin, 10 lettres, 20 lettres. Puis à la fin, il y a plein de lettres dans son bureau et un cheval. Et puis là, ben, on comprend qu'il va changer d'idée. Et la solution qu'il trouve, c'est qu'ils vont envoyer par avion du foin pour que les chevaux puissent survivre l'hiver. Donc, très beau récit, très original. On y croit. Parfois, il y a même des fautes dans les petites lettres écrites par les enfants. Il y a des dessins que les enfants ont envoyés. Et tout ce travail-là a été fait par l'illustratrice et l'autrice en relation avec des écoles, avec des classes, parce qu'à la fin, il y a des remerciements qui expliquent qu'il y a des dessins faits par ces enfants-là qui ont rencontré et qui s'intègrent très bien au fil des lettres et des dessins. Et ces enfants-là sont vraiment adorables. Et c'est beau de voir la force du nombre, combien finalement, avec toutes les écoles réunies dans le Canada, ben, on va finir par faire reculer la décision du gouvernement. Donc, un très beau livre, « Comment sauver des chevaux sauvages ».
Alors, « Comment sauver des chevaux sauvages », finaliste au gala du prix des au prix des libraires de Québec. On vous rappelle que, du Québec, dis-je bien, je veux aller trop vite. Ces prix seront remis ce soir au Théâtre Paradoxe. Si on passe à un autre titre, peut-être en 3 minutes environ, parce qu'on veut laisser la parole à Ginette Renaud pour terminer cette émission. « Petite douceur » par Véronique Grenier. Denis, qui est sur la liste préliminaire, mais qui n'a pas été retenue parmi les finalistes.
Voilà, mais qui vaut la peine d'être lu. Petite douceur, c'est un recueil pour les 13 ans et plus, je dirais, de 85 pages. Ce sont des petits poèmes sur la difficulté de vivre quand on est une adolescente. Et ça met en scène une jeune adolescente que l'on suit, à laquelle on s'attache, qui se mutile. Elle se pince très fort parce qu'elle dit que quand elle souffre, se pincer, c'est une douleur qu'elle a choisie. Et que celle-là va peut-être éteindre l'autre. Du moins, c'est elle qui la domine, celle-là. Alors, à la fin, pour aller vite, l'autrice dit « Dans ce recueil, j'ai voulu te dire que j'aurais aimé ça apprendre plus tôt dans ma vie, qu'il faut répondre à la douleur qu'on ressent par une douceur qu'on se fait, pas par une autre douleur. » Donc, finalement, elle donne des conseils et des ressources. Comment tu peux aborder quelqu'un? Elle donne même des phrases de départ. Je ne sais pas quoi dire, dit « je voudrais te parler de quelque chose ». Elle aide vraiment les jeunes parce qu'elle a probablement vécu ça. Et puis bon, ben c'est un livre touchant, très, comment je dirais, bouleversant de voir combien les adolescents font de l'anxiété de performance, d'anxiété pour un 82 qu'elle a eu en histoire, en fin de maladie. Et c'est répandu, ce problème-là. Alors, je le confierai à tous les jeunes de secondaire 1 dans toute la province à lire « Petite douceur » de Véronique Grenier aux éditions La Courte Échelle.
Elle écrit bien, cette Véronique Grenier. Elle enseigne la philosophie.
Oui, puis elle a écrit d'autres livres dans le passé sur justement ces douleurs-là. Alors, c'est ce qui me fait croire. Elle a un livre qui s'appelle « About », on comprend. Elle en a un qui s'appelle « Colle-moi », c'est sur les enfants séparés, que les parents sont séparés. Et puis, elle en a un autre qui explore les fatigues ordinaires. T'sais. Donc, elle est consciente de ça et ça fait du bien de lire ça. Puis de dire, quand tu as une douleur, mais fais-en pas plus de douleur. Là. Essaie de te faire de la douceur. Apprivoise cette douleur-là.
Ouais.
Ouais, elle dit qu'on devrait avoir du temps dans l'année, un congé à l'école pour prendre soin de soi, que ça soit inscrit dans le calendrier.
On est d'accord.
C'est vrai qu'on pourrait avoir ça. Hein.
Petite douceur. Alors, voilà. Au pluriel, aux éditions La Courte Échelle, par Véronique Grenier. Merci beaucoup, Anne-Marie Aubin. Vous, Ginette Renaud, en quelques secondes, qu'est-ce qu'elle représente?
Un monument de la chanson francophone au Québec.
Tout à fait. Et en 1986, elle a participé avec Michel Legrand au Festival international de jazz de Montréal. Elle a une voix pour chanter tous les genres. Et en jazz, elle est particulièrement fabuleuse.
Ouais, unique.
Bye-bye.
Au revoir.
Tous les moulins de mon cœur. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings. Past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock. Summer goes so quickly, but
Is it something that you say? Lovers walk along the shore. Distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in a hallway, and the fragments of a song. I remember names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over. Images on wine, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Oui, ça vaut une ovation debout, Ginette Renaud, qui interprétait « Les moulins de mon cœur », une des plus belles chansons de Michel Legrand, qui l'accompagnait au piano. Et ça y allait par là, n'est-ce pas? Je me remets à peine d'un salto arrière, tellement c'était renversant. J'ai repiqué ces mots à un animateur de Radio-Canada. Un jour, je lui avais envoyé une chanson et il l'avait tellement aimée qu'il avait dit ça. Ça m'est resté en tête. Hein? Ouais, le regretté Jacques... son nom de famille m'échappe, mais il n'est plus. Malheureusement, c'était un grand animateur, celui qui animait Macadam Tribu. Mathieu, si vous pouvez faire une petite recherche là-dessus. Jacques, ça se peut-tu? L'édition 2026 du prix Gérard Hamon a couronné un jumelage fidèle aux valeurs du regroupement québécois du parrainage civique. Romain Brun et Samuel Ledoux, filleul, membre du parrainage civique Champlain, qui sont les grands gagnants du prix volet RQPC, RQPC pour le regroupement québécois du parrainage civique. Alors, c'était la semaine dernière, la semaine de l'action bénévole du 19 au 25 avril 2026. On en a profité pour remettre le prix un petit peu avant, soit le 16 avril, lors d'un événement virtuel intitulé « Le parrainage civique tisse des liens », une occasion de célébrer les histoires inspirantes de jumelage. Et pour Samuel, ce jumelage a été une véritable reprise de confiance. Il ne me voit pas à travers mes limites, mais à travers mon potentiel. Le site parrainagecivique.com permet de découvrir les coordonnées de l'organisme le plus près de chez vous. Les bénévoles potentiels peuvent aussi trouver les réponses à leurs questions en appelant sans frais au 1-877-PARRAIN. 1-877-727-7246. On reviendra sur cet organisme et on aura même des invités en entrevue à ce sujet. Jacques Bertrand, c'était son nom. Je le salue là où il est. Bonne fête, Ginette Renaud!